Ave Maria, chers auditeurs de Radio Immaculée Conception, bienvenue dans votre émission de santé, Le Corps à Cœur. Alors aujourd'hui, nous allons avec Sœur Paulette vous parler de la surdité. Et pour parler de ça, on reçoit un collègue spécialisé dans la question. Il s'agit de Daniel Affo. Alors bonjour Daniel.
Bonjour Camille.
Toi tu es orthophoniste et tu es spécialisé dans la surdité, c'est ça?
C'est bien ça.
Où est-ce que tu travailles?
Je travaille à la clinique coopérative de Calavi. Je travaille également dans un collège pour enfants sourds à Cotonou. Et voilà.
D'accord, donc dans deux structures un peu différentes.
Tout à fait.
D'accord, alors toi qui es le spécialiste de la question autour de cette table, qu'est-ce que c'est en fait la surdité?
Et spécialiste, pas vraiment. C'est vrai que je m'approfondis dans le domaine, mais je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a reçu notre formation en dehors de ce qu'on reçoit d'habitude. Alors, la surdité, c'est tout simplement une baisse de l'audition. Une perte ou une baisse de l'audition. Tout simplement parce qu'il faut parler dans les définitions qui vont embrouiller les auditeurs.
D'accord. Qu'est-ce que ça a comme, comme conséquence?
Lorsqu'on n'entend pas bien ou lorsqu'on n'entend pas du tout, ça engendre plusieurs conséquences. Et d'abord, le langage ne va pas se construire comme le langage d'un enfant qui n'a pas ce problème-là. Mmh. À l'école, l'enfant qui est sourd va avoir des difficultés à lire. Il va avoir des difficultés à acquérir les compétences scolaires comme les autres.
Alors,
il va avoir des difficultés au niveau social, au niveau psychologique.
D'accord. Alors là, je me mets dans la tête d'un auditeur. Je me dis, mais finalement, s'il n'entend pas, pour lire, il faut des yeux, il ne faut pas, voilà. Des oreilles.
Voilà.
Voilà. Lorsque vous commencez à lire, c'est que vous connaissez ce que désigne un mot, par exemple. Okay. Et lorsque vous commencez à lire, il faut la structure syntaxique qui vous amène à comprendre ce qu'on est en train de dire. Cela n'est pas forcément facile chez l'enfant sourd.
Mm-hmm. Et oui, tout ça, l'enfant normal, il l'a acquis en entendant ses parents parler.
Voilà, en entendant, l'enfant acquiert déjà beaucoup de choses avant de savoir comment les écrire.
Ouais.
Et du coup, ça leur reste en tête. Mm-hmm. Voilà.
Et même si c'est après l'acquisition de ces sons que l'enfant devient sourd, le problème se pose toujours?
Lorsque l'enfant a une surdité prélinguale, c'est-à-dire ce qui survient avant l'acquisition du langage.
Et c'est autour de quel âge?
Les conséquences sont tout à fait différentes. C'est autour de 2, 3, voire 4 ans, parfois.
Ok.
Oui.
Donc ça veut dire qu'avant 2 ans, il y a des acquisitions pour le langage.
Oui, il y a des acquisitions. L'enfant ne pourra pas parler tout de suite, mais déjà, il comprend beaucoup de choses.
Il y a des bases
de la communication. Il y a déjà les bases de la communication qui se mettent déjà en place. Avant que l'enfant ne commence pas à faire de la production langagière, pas pour me parler.
Voilà.
Et lorsque l'enfant devient sourd après avoir acquis le langage, mm-hmm. c'est-à-dire au-delà de 4 ans, par là, les conséquences ne vont pas être les mêmes. L'enfant a déjà un acquis très important par rapport au langage mmh. et qui va pouvoir donc utiliser ces acquis-là lors de l'apprentissage, lors de l'acquisition du langage. Parce que le langage s'acquiert tout le temps. On ne va pas avoir un âge pour dire « j'ai fini d'acquérir le langage ». Mais au fur et à mesure que l'on grandit, on apprend, comme on le dit.
On perfectionne le langage.
Voilà, tout à fait.
Mais là, ce que j'entends, c'est que tu dis « quand la surdité arrive après 4 ans », ça veut dire que la surdité peut arriver n'importe quand dans la vie?
Oui, bien entendu, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il y a eu des gens qui sont déjà grands, qui sont devenus sourds à l'âge de 30 ans, voire plus.
Et c'est à cause de quoi alors qu'on peut devenir sourd?
Il y a beaucoup de causes à l'origine. Et il peut y avoir, par exemple, une surdité progressive, c'est-à-dire qu'il y a un mal qu'on n'a pas traité, qui pendant longtemps a fini par rendre l'oreille défectueuse, qui n'entend plus ou qui n'entend plus bien. Il peut y avoir également des bruits très forts, comme détonation d'une bombe par exemple, qui peut briser l'audition d'une personne. Il y a plein de trucs.
Donc même au niveau professionnel, ça peut endommager Et si j'ai une profession où il y a trop de bruit toujours, ça peut endommager l'acuité, la capacité d'entendre.
Tout à fait, sœur Paulette, c'est vrai. Il y a des gens qui sont tout le temps à côté de grands baffles qui font du bruit à longueur de journée dans les buvettes, dans les boîtes de nuit et autres. Ce sont des trucs qui endommagent l'oreille progressivement.
Et on ne se rend pas compte.
On ne se rend pas compte. Parce qu'on est habitué déjà à ce bruit-là. Et quand ça commence, bon, parfois même là, on sent que ce n'est pas élevé. Alors que celui qui n'est pas habitué, quand il y vient, il dit « Ah, il faut diminuer ». Voilà.
Okay. Alors nous allons vous demander de nous expliquer plus par rapport aux enfants, aux enfants scolarisés surtout, parce que c'est eux qui sont les plus vulnérables.
Voilà, tout à fait. Et les enfants, surtout lorsqu'ils sont scolarisés, c'est en ce moment-là qu'on constate qu'il y a beaucoup de difficultés. Non pas parce que c'est avec eux qu'il y a des difficultés, mais parce qu'ils vont à l'école, on leur demande plus et on se rend compte qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont évalués, par exemple. L'enfant qui ne va pas à l'école n'est pas évalué dans son langage. Mais lorsqu'il va à l'école, on fait évaluation, on se rend compte que lui, il n'a pas les différences comme les autres. Et c'est là qu'on dit que les enfants qui sont scolarisés ont plus de difficultés.
Est-ce que ça joue sur la compétence cognitive, c'est-à-dire l'intelligence de l'enfant?
La surdité n'a aucun impact sur la capacité intellectuelle de l'enfant. Ça n'a pas eu de répercussion sur tout ce qui est, je dirais, toutes les fonctions supérieures. Voilà.
Par contre, ça peut devenir une conséquence. C'est-à-dire que si l'enfant n'entend pas et qu'on s'en rend pas compte et qu'il va à l'école comme les autres, mais qu'il a des mauvais résultats, que personne ne fait rien pour adapter les choses pour lui, à ce moment-là, il va pas pouvoir acquérir les leçons, les connaissances. Et à ce moment-là, il va réduire ses capacités, il va réduire son intelligence, alors que il aurait pu si on s'était adapté à lui.
Oui, bon, en fait, ce n'est pas l'intelligence qui est affectée. Lorsque l'enfant n'est pas soumis à une situation d'apprentissage, il ne va pas pouvoir l'acquérir. Et lorsque on fait de l'apprentissage, de l'enseignement à l'école pour les enfants, l'enfant qui n'a pas l'audition en place, en fait, lui ne reçoit rien. Ce n'est pas qu'il reçoit quelque chose et que... Non. Son intelligence demeure intacte. Même s'il ne va pas à l'école, son intelligence est là, intacte. Mais on n'utilise pas cette intelligence-là. On ne la cultive pas. Mm-hmm. Voilà, tout simplement ça. Parce que ça ne va pas endommager l'intelligence.
C'est ça. Voilà. Mais par contre, rester avec son intelligence d'enfant de 4 ans si on ne la fait pas grandir.
Qui va sommeiller en lui. Bon, c'est là toujours. Il fait toujours les mêmes choses parce qu'il n'est pas confronté à des situations. Parce que l'intelligence, pour être cultivée, a besoin d'être confronté à des réalités, à des situations différentes. Et chaque fois que l'intelligence est confrontée à une réalité, eh bien...
Oui, ça amène plus à réfléchir.
Voilà, tout à fait. Ça crée encore un lien,
des possibilités à l'enfant.
Voilà, de connexion, des connexions au niveau des neurones. Ça s'agrandit. Et chaque fois que l'enfant est confronté à une période de difficulté, il sait vraiment comment il faut s'y prendre.
Voilà. Alors, pour revenir un petit peu à notre jeune sourd, donc soit qui n'entend rien du tout, soit qui entend un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un enfant sourd?
Bon, d'abord, lorsque l'enfant est né sourd, pour le constater, et l'enfant est trop sage, c'est-à-dire il dort tout le temps. Vous faites du bruit, faites tout. L'enfant qui dort, non. Ça, moi, peut tout faire avant de revenir le prendre quand il veut, quand elle veut. Cet enfant, il faut dire, commencez pas à s'inquiéter. L'enfant est en train de dormir, quelque chose tombe, blah.
Ça fait un gros bruit.
Ça fait un gros bruit, l'enfant doit sursauter. Si ce n'est pas le cas, alors il faut commencer pas à s'inquiéter. Allez voir un médecin ORL.
C'est ça, l'ORL, c'est un médecin spécialisé.
Voilà, un médecin spécialisé dans les pathologies de la bouche, de la gorge, des oreilles. Voilà. Et donc, lorsque un enfant est sourd, on va constater que sa réaction va être différente de celle de ses pères. Et en ce moment-là, les parents doivent déjà s'inquiéter pour l'amener chez les spécialistes, chez un médecin, n'importe quel médecin normalement.
Souvent le pédiatre, parce que c'est lui qui suit l'enfant.
Tout à fait, le pédiatre ou même un médecin généraliste, parce qu'on n'en trouve pas partout, les pédiatres. Ouais. Voilà donc, et c'est à partir du moment où on l'amène voir un spécialiste que la prise en charge va commencer. Parce que quand l'enfant est souffre, c'est pas que c'est terminé, non, c'est pas terminé. On peut faire beaucoup de choses pour lui. Il peut aller à l'école, il peut faire de grandes études. Et on a vu des gens qui sont sourds et qui sont devenus de grands professionnels. Voilà.
Même s'ils ne parlent pas du tout.
Même s'ils ne parlent pas, parce que la vie n'est pas réduite au langage parlé.
Voilà.
Exactement. On peut ne pas parler, mais on communique. La communication est plus importante que tout.
Voilà.
D'accord. On reparlera de tout ça, parce que c'est vraiment très intéressant, juste après. D'abord, on va écouter une petite chanson qui s'appelle « Les enfants de la terre ».
Voilà, de retour sur votre émission, Le Corps à Cœur, sur Radio Immaculée Conception. On est ensemble avec Daniel Affaud et Camille Biard.
Daniel est spécialisé en surdité et est orthophoniste et s'occupe principalement des enfants sourds. Alors, on parlait juste avant la pause musicale de la communication, qui est quand même la chose la plus essentielle pour un être humain, pouvoir se faire comprendre et comprendre les autres. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est possible pour un sourd?
Lorsqu'une personne est sourde, comme on parle des enfants, il y a la communication qu'il faut privilégier, comme on le dit. Et la communication est sous différentes formes. Lorsqu'on parle oralement, tel que je suis en train de vous le dire là, c'est la communication. On peut également communiquer avec les signes, avec les gestes. Les mains peuvent faire des phrases, peuvent dire tout. Il y a également d'autres types de communication qu'on appelle le langage parlé complété, qui n'est pas tellement présent au Bénin. Et il y a également le français signé, qui existe aussi. Et la langue des signes existe pour plusieurs langues, pour l'Amérique, pour la France, pour l'Afrique et tout ça. Voilà.
Alors, comment on fait son choix quand on a un enfant sourd?
Alors, quand on a un enfant sourd, il faut chercher à voir ce qui lui est plus facile. Ce n'est pas ce qui lui est facile. parce que ça ne va pas être facile, c'est parmi toutes ces communications, ces types de communications, lequel des types vous paraît plus simple. Et dans le cas du Bénin, puisque c'est de la réalité qu'il s'agit,
oui,
il
pratiques.
Y a la langue des signes qui s'impose à l'enfant lorsqu'il va déjà à l'école.
Mais est-ce toutes que c'est écoles, accessible à tout le monde?
Toutes les écoles spécialisées utilisent la langue des signes. C'est vrai, on se dit que ce n'est pas accessible, mais c'est lorsqu'on se dit que l'enfant sourd n'est pas un enfant comme les autres. Parce qu'on ne dépense pas dans les écoles spécialisées plus que dans des écoles privées ordinaires. Non. Au contraire, on dépense encore moins dans les écoles spécialisées que dans les écoles privées ordinaires au Bénin.
Comment ça?
La contribution que vous payez n'atteint pas forcément ce que vous payez dans une école ordinaire.
Okay. Oui, ça c'est pour enfants, vrai.
Voilà.
Oui.
Parce que il faut dire, c'est des gens qui ont l'amour. Ils ont de l'amour pour ces enfants-là qui travaillent. Ce n'est pas que les gens ils gagnent beaucoup de choses. C'est de l'aide qu'on apporte aux enfants. Par exemple, moi, quand je travaille dans le centre pour enfants sourds, je me sacrifie beaucoup. Je gagne très peu. Pratiquement rien. Je gagne pratiquement rien, parfois. Et là, il faut apporter de l'amour à ces enfants qui n'ont pas demandé à naître sourds. Tout simplement.
Mais la plupart des parents sont sceptiques à cela parce que ils veulent vraiment, à part la langue des signes, trouver un autre moyen pour faire parler l'enfant ou pour que l'enfant évolue normalement. Donc, on veut vraiment l'insérer dans une école normale. On ne veut pas du tout entendre parler d'une école pour personnes sourdes.
Ça, c'est normal. Lorsque la maman était enceinte de son enfant, de sa fille, de son garçon, elle n'avait pas fait le projet d'un enfant sourd. Vous comprenez que ça va être difficile.
Ouais.
Mais lorsque c'est venu, on l'accepte. Tout ce que Dieu nous amène nous convient et nous donne les moyens pour pouvoir supporter cela. Lorsqu'un enfant est né sourd, les parents ne doivent pas s'affoler. L'enfant va pouvoir gagner beaucoup de choses. Il va pouvoir même parler. Ce que les gens ne pensent pas.
Ouais, c'est ça.
Il va pouvoir parler. On a besoin juste du temps et d'un peu plus de moyens. Parce que l'enfant qui est sourd et qui est appareillé peut avoir le langage oral.
Donc,
c'est une prise en charge à long terme.
Alors, c'est une prise en charge en orthophonie?
Prise en charge en orthophonie. L'enfant qui est sourd, qui n'entend rien du tout, va se mettre là et va vous lire tout un texte. Vous lui tournez dos, vous allez comprendre tout ce qu'il a lu. Il vous parle, vous allez comprendre tout ce qu'il dit. Il peut avoir une baisse de l'audition malgré son appareil, mais lorsque vous parlez en face de lui, le peu qu'il entend, il complète avec la lecture labiale parce qu'il lit sur vos lèvres et il comprend tout ce que vous dites.
Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un appareil.
Qui ont un appareil. Et quand on parle d'appareil, il faut dire qu'il faut faire des examens préalables. Il faut aller voir un médecin ORL qui va vous demander d'aller voir un audiométriste qui va vous faire l'audiogramme, qui va ramener, va voir est-ce que l'enfant là, on peut l'appareiller, quel type d'appareil il faut lui acquérir, et comment il faut faire. Et tout ça, avec le prothésiste, on arrive à lui acquérir un appareil qui est pour lui seul.
Exactement, c'est pas n'importe quel appareil.
On ne va pas aller acheter un appareil pour de la France parce que son oncle est en France, on lui a acheté un appareil, bon voilà, c'est fini. Non, l'appareil est conçu pour l'enfant. On prend les mesures comme on coud un habit pour une personne. On prend les mesures du conduit auditif externe. Et la surdité va dicter le type d'appareil qu'il faut lui acquérir. Parce que les performances des appareils ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est tout cela qu'il faut réunir pour acquérir à l'enfant un appareil qui est pour lui seul et qui s'entretient aussi. Voilà. Voilà.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez un appareil qui ne sera pas adapté parce qu'on n'a pas fait les bonnes mesures, rapidement, l'enfant va le laisser parce qu'il ne sera pas adapté à lui.
Tout à fait. L'enfant va se gêner parce qu'en portant l'appareil, soit ça sert le conduit auditif externe. Ce qu'on appelle conduit auditif externe, c'est le trou qui rentre dans l'oreille qui va atteindre
jusqu'au niveau du tympan.
Voilà, qui va atteindre le tympan là-bas. C'est ça le conduit auditif externe. Soit ça va trop serrer, l'enfant aura mal, il peut même avoir des inflammations à ce niveau-là, ce qui est mauvais. Soit c'est plus mince que le conduit auditif externe, et là, l'air va rentrer au niveau de la partie qui reste et ça va créer un sifflement. Vous allez entendre à tout moment. L'enfant est gêné et ça peut même, je dirais, endommager le peu de reste qui lui reste. Voilà.
Donc vous aurez acheté un appareil très cher pour rien.
Pour rien. Vous aurez acheté un appareil très cher qui va apporter à l'enfant de l'inconfort.
C'est ça.
Voilà.
Et qui n'aura pas une efficacité importante.
Tout à fait.
Alors, peut-être qu'on pourrait revenir rapidement sur, tu disais, les classes, les écoles spécialisées qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais pourquoi c'est intéressant, ces écoles? Et est-ce qu'il faut mettre l'enfant sourd dans une école comme ça?
Oui. Lorsqu'un enfant est sourd, pour le faire profiter de l'éducation, de l'enseignement, il faut le mettre dans une école pour enfants sourds. Parce que là, tous les enfants qui sont là ont pratiquement le même problème que lui. Je dis pratiquement parce que les sujets sont variables. Donc, on sait forcément la pédagogie à utiliser pour faire créer à ces enfants-là ce qu'on est en train de transmettre. Par contre, dans une école pour enfants
ordinaire,
une école ordinaire ou pour enfants tout venant, tout est conçu pour l'enfant qui entend. L'enseignant parle, il tourne dos aux élèves, il parle, il est au tableau, il est en train d'écrire, il parle, les enfants écoutent. Mais l'enfant qui est sourd, quand bien même il est appareillé, ne va pas entendre tout, il aura besoin forcément de voir le visage de l'enseignant pour pouvoir comprendre. Vous voyez? Et lorsque l'enfant est sourd, on ne peut pas le mettre à n'importe quel endroit dans la classe. Il y a des endroits précis. Et lorsque c'est une école spécialisée, il y a des endroits où il faut placer les ampoules. Des ampoules, lorsque la classe
la
doit être un peu sombre, la lumière.
Ah. Voilà,
la lumière, pas de la lumière. Il faut placer des lumières, la lumière à des endroits donnés pour ne pas créer de l'ombre sur le visage de l'enseignant qui parle et empêcher donc l'enfant de voir sa bouche.
Voilà, donc pour les enseignants qui nous écoutent et qui ont des doutes sur un enfant qui n'entendrait pas, mais qui est quand même dans sa classe, le premier conseil à lui donner, ça serait de faire attention à toujours parler et que l'enfant puisse voir les lèvres.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, et pour les écoles spécialisées, il faut forcément que l'enfant ait un suivi aussi. Les parents doivent savoir comment ça évolue à l'école et ceci... Parce que ce n'est pas toujours facile chez l'enfant sourd. Ce qui est facile et qui est, bon, très simple pour nous, lui, il le vit très difficilement. Il le vit avec beaucoup de stress. Voilà. Parce que prendre le cahier et lire, lui, pour lire, il doit devoir mémoriser. C'est comme si vous voyez une photo, on dit de mémoriser, de dire tout ce qu'il y a sur la photo. Parce que l'enfant ne peut pas s'entendre parler. Il ne peut pas lire pour s'entendre. Du coup, il regarde. Il voit paysan.
Il a seulement sa mémoire.
Il faut qu'il sache que c'est P, A, Y et S. Et non, P, A, S, Y. Ce qu'on voit le plus souvent chez les enfants sourds. Et c'est une réalité. Voilà.
Alors, et quelques conseils, ou bien quelques secondes, pour nos parents, pour les auditeurs qui nous écoutent.
Le premier conseil, c'est lorsque vous constatez qu'un enfant a des problèmes pour entendre, ne cherchez pas à attendre. N'attendez pas un an, deux ans, même s'il ne parle pas encore. Il faut aller voir un médecin. On peut aller voir directement un orthophoniste. Lorsque un enfant a un problème pour entendre, on peut lui faire beaucoup de choses. Cet enfant peut devenir grand quelqu'un. Il n'y a pas question de négliger. On le prend comme un enfant tout venant, un enfant qui n'a pas de problème. Voilà.
Peut-être qu'on va en profiter pour rappeler ton contact.
Oui.
Oui, je suis au 95 74 41, 63 ou 66 68, 67, 70, 66, 68, 67, 70.
Voilà, c'est Daniel Afo qui est orthophoniste et spécialisé dans la surdité.
Alors, pour nous contacter, vous avez deux solutions. Notre émission interactive dans la prochaine, c'est le 22 mars. Et là où je travaille, Sœur Paulette et à Calavi, 4e voie après l'église Bakita, le centre médico-social des sœurs au CPSP. Nous rappelons aux pédiatres, aux médecins, aux enseignants, s'ils voudraient que nous leur expliquions quelque chose au niveau de l'orthophonie, nous sommes disponibles. Merci Bruno pour la technique. À la semaine prochaine avec Nazaire Napoléon Alagbé sur la tuberculose. Merci.
Au revoir.